Chapitre 10. Pitou géographe, Pitou capitaine d'habillement. Pendant que Pitou buvait, pendant que Pitou digérait, pendant que Pitou réfléchissait, la mère Colombe avait gagné du chemin sur lui et était entrée à la poste. Mais Pitou ne s'était point inquiété de cela. La poste était située en face de ce qu'on appelle la rue Neuve, espèce de ruelle qui donne sur cette portion du parc où est située l'allée des soupirs de langoureuse mémoire. En 15 enjambées, il aurait rejoint la mère Colombe. Il exécuta ses 15 enjambées et arriva sur le seuil de la poste juste comme la mère Colombe sortait, son paquet de lettres à la main. Au milieu de toutes ces lettres, il y en avait une pliée, enfermée dans une élégante enveloppe et coquettement cachetée d'un seau de cire. Cette lettre était à l'adresse de Catherine Billot. Il était évident que c'était la lettre que Catherine attendait. Selon les conventions arrêtées, cette lettre fut remise par la factrice à l'acheteur de sucre d'orge, lequel partit à l'instant même pour Pisseleux, joyeux et triste à la fois, joyeux du bonheur qu'il allait reporter à Catherine, triste de ce que ce bonheur venait à la jeune fille d'une source dont il trouvait l'eau si amère à ses lèvres. Mais malgré cette amertume, le messager était d'une si excellente nature que, pour porter plus vite cette lettre maudite, il passa insensiblement du pas au trot et du trot au galop. À 50 pas de la ferme, il s'arrêta tout à coup, songeant avec raison que s'il arrivait ainsi tout haletant et tout couvert de sueur, il pourrait bien inspirer de la défiance au père Billot, lequel paraissait engagé dans la voie étroite et épineuse du soupçon. Il résolut donc, au risque d'être en retard d'une minute ou deux, d'accomplir d'un pas plus posé le bout de chemin qui lui restait à faire, et dans ce but il marchait avec la gravité d'un de ces confidents de tragédie auxquels la confiance de Catherine venait de l'assimiler. Lorsque, en passant devant la chambre de la jeune malade, il s'aperçut que la garde, sans doute pour donner un peu d'air frais à cette chambre, avait entr'ouvert la fenêtre. Pitou introduisit son nez d'abord et son œil ensuite dans l'entrebâillement. Il ne pouvait pas davantage à cause de l'espagnolette. Mais cela lui suffit à lui pour voir Catherine éveillée et l'attendant, et cela suffit à Catherine pour voir Pitou mystérieux et faisant des signes. « Une lettre !» balbutia la jeune fille. « Une lettre !»« Chut !» dit Pitou. Et, regardant autour de lui avec l'œil d'un braconnier qui veut dépister tous les gardes d'une capitainerie, il lança, se voyant parfaitement isolé, sa lettre par l'entrebâillement, et cela avec tant d'adresse qu'elle tomba juste dans l'espèce de récipient que celle qu'il attendait lui avait ménagé sous son oreiller. Puis, sans attendre un remerciement qui ne pouvait lui manquer, il se rejeta en arrière et poursuivit son chemin vers la porte de la ferme, sur le seuil de laquelle il trouva Billot. Sans l'espèce de courbe que faisait le mur, le fermier eut vu ce qui venait de se passer et, Dieu sait, avec la disposition d'esprit dans laquelle il paraissait être, ce qui serait arrivé de cette certitude substituée au simple soupçon. L'honnête Pitou ne s'attendait pas à trouver face à face le fermier, et il sentit que, malgré lui, il rougissait jusqu'aux oreilles. « Oh, monsieur Billot, dit-il, vrai, vous m'avez fait peur. Peur à toi, Pitou, un capitaine de la garde nationale, un vainqueur de la Bastille, peur. Que voulez-vous, dit Pitou, il y a des moments comme cela, dame, quand on n'est pas prévenu. » « Oui, dit Billot, et quand on s'attend à rencontrer la fille et qu'on rencontre le père, n'est-ce pas ?»« Oh, monsieur Billot, pour ça non, dit Pitou, je ne m'attendais pas à rencontrer mademoiselle Catherine. Oh non, quoiqu'elle aille toujours de mieux en mieux, à ce que j'espère, elle est encore trop malade pour se lever. »« N'as-tu donc rien à lui dire ?» demanda Billot. « À qui ?»« À Catherine. » « Ah, si fait, j'ai à lui rapporter que M. Rénal a dit que c'était bien et qu'il viendrait dans la journée, mais un autre peut lui conter cela tout aussi bien que moi. D'ailleurs, toi, tu dois avoir faim, n'est-ce pas ?»« Faim ?» dit Pitou. « Comment, tu n'as pas faim ?» s'écria le fermier. Pitou vit qu'il avait lâché une bêtise. Pitou, n'ayant pas faim à 8 heures du matin, c'était un dérangement dans l'équilibre de la nature. « Certainement que j'ai faim, dit-il. Eh bien, entre et mange. Les journaliers sont en train de déjeuner. Ils ont dû te garder une place. Pitou entra. Bio le suivit des yeux, quoique sa bonhomie eût presque détourné ses soupçons. Il le vit s'asseoir au haut bout de la table et attaquer sa miche et son assiette au lard comme s'il n'avait pas eu deux pavés de pain d'épices, quatre bâtons de sucre d'orge et une pinte d'eau sur l'estomac. Il est vrai que, selon toute probabilité, l'estomac de Pitou était déjà redevenu libre. Pitou ne savait pas faire beaucoup de choses à la fois, mais il faisait bien ce qu'il faisait. Chargé par Catherine d'une commission, il l'avait bien faite. Invité par Bio à déjeuner, il déjeunait bien. Bio continuait à l'observer, mais voyant qu'il ne détournait pas les yeux de son assiette, voyant que sa préoccupation s'arrêtait à la bouteille de cidre qu'il avait devant lui, remarquant que pas une seule fois son regard n'avait cherché la porte de Catherine, il finit par croire que le petit voyage de Pitou à Villers-Cotterêts n'avait pas d'autre but que celui qu'il avait accusé. Vers la fin du déjeuner de Pitou, la porte de Catherine s'ouvrit et Madame Clément sortit et s'avança dans la cuisine avec l'humble sourire de la garde-malade sur les lèvres. Elle venait à son tour chercher une tasse de café. Il va sans dire qu'à 6 heures du matin, c'est-à-dire un quart d'heure après le départ de Pitou, elle avait fait sa première apparition pour réclamer son petit verre d'eau-de-vie, la seule chose qui la soutint, disait-elle, quand elle l'avait veillée toute une nuit. À sa vue, Madame Bio alla à elle et Monsieur Bio rentra. Tous deux s'informèrent de la santé de Catherine. « Cela va toujours bien, » répondit Madame Clément. « Cependant, je crois que dans ce moment-ci, Mademoiselle Catherine a un peu le délire. »« Comment ça, le délire ?» répondit le père Bio. « Cela lui a donc repris. »« Oh, mon Dieu, ma pauvre enfant !» murmura la fermière. Puis tout leva la tête et écouta. « Oui, » reprit Madame Clément, « elle parle d'une ville nommée Turin, d'un pays nommé la Sardaigne, et elle appelle Monsieur Pitou pour qu'il lui dise ce que c'est que ce pays et cette ville. »« Ah, me voilà, » dit Pitou, en avalant le reste de sa canette de cidre et en s'essuyant la bouche avec sa manche. Le regard du père Bio l'arrêta. « Toutefois, dit-il, si Monsieur Bio juge à propos que je donne à Mademoiselle Catherine les explications qu'elle désire. »« Pourquoi pas, » dit la mère Bio, « puisqu'elle te le demande, la pauvre enfant. Vas-y, mon garçon, d'autant plus que Monsieur Rénal a dit que tu étais un bon élève en médecine. » « Dame, » dit naïvement Pitou, hein, « demandez à Madame Clément comme nous avons soigné Mademoiselle Catherine cette nuit. Ah, Madame Clément n'a pas dormi un instant, l'indigne femme, ni moi non plus. » C'était une grande adresse de la part de Pitou d'attaquer ce point délicat à l'endroit de la garde malade. Comme elle l'avait fait un excellent somme de minuit à 6 heures du matin, déclarer qu'elle n'avait pas dormi un seul instant, c'était s'en faire une amie, plus qu'une amie, une complice. C'est bien, dit le père Bio, puisque Catherine te demande, va auprès d'elle. Peut-être un moment viendra-t-il où elle nous demandera aussi, sa mère et moi. Et Pitou sentait instinctivement qu'il y avait un orage dans l'air, et comme le berger dans les champs, quoique prêt à affronter cet orage s'il le fallait, il n'en cherchait pas moins d'avance un abri pour cacher sa tête. Cet habit, c'était Aramon. À Aramon, il était roi. Que dis-je, roi? Il était plus que roi. Il était commandant de la garde nationale. Il était Lafayette. D'ailleurs, il avait des devoirs qu'il appelait à Aramon. Aussi se promettait-il bien, ses mesures prises avec Catherine, de retourner promptement à Aramon. Ce fut en arrêtant ce projet dans son esprit qu'avec la permission verbale de Monsieur Bio et la permission mentale de Madame Bio, il entra dans la chambre de la malade. Catherine l'attendait impatiemment. À l'ardeur de ses yeux, au coloris de ses joues, on pouvait croire, comme l'avait dit Madame Clément, qu'elle était sous l'empire de la fièvre. À peine Pitou eut-il refermé la porte de la chambre de Catherine, que celle-ci, le reconnaissant à son pas et l'attendant d'ailleurs depuis 1 heure et demie à peu près, se retourna vivement de son côté et lui tendit les deux mains. « Ah, c'est toi, Pitou, » dit la jeune fille, « comme tu as tardé !»« Ce n'est pas ma faute, mademoiselle, » dit Pitou, « c'est votre père qui m'a retenu. »« Mon père ? Lui-même, oh, il faut qu'il se doute de quelque chose. Et puis moi, d'ailleurs, ajouta Pitou avec un soupir, je ne suis pas pressé, je savais que vous aviez ce que vous désiriez avoir.
Oui, Pitou, oui, dit la jeune fille en baissant les yeux, oui, et je te remercie.
Puis elle ajouta à voix basse, ah, tu es bien bon, Pitou, et je t'aime bien.
Vous êtes bien bonne vous-même, mademoiselle Catherine, répondit Pitou, près de pleurer, car il sentait que toute cette amitié pour lui n'était qu'un reflet de son amour pour un autre, et au fond du cœur, si modeste que fût le brave garçon, il était humilié de n'être que la lune de Charny. Aussi, ajouta-t-il vivement, je suis venu vous déranger, mademoiselle Catherine, parce qu'on m'a dit que vous désiriez savoir quelque chose.
Catherine porta la main à son cœur, elle y cherchait la lettre d'Isidore pour y puiser sans doute le courage de questionner Pitou. Enfin, faisant un effort, « Pitou, demanda-t-elle, toi qui es si savant, peux-tu me dire ce que c'est que la Sardaigne ?» Pitou évoqua tous ses souvenirs de géographie. « attendez donc, mademoiselle, dit-il, je dois savoir cela. » Au nombre des choses que M. l'abbé Fortier avait la prétention de nous enseigner était la géographie. Attendez donc, la Sardaigne. Ah, je vais y être. Ah, si je retrouvais le premier mot, je vous dirais tout.
Oh, cherche, Pitou, cherche, dit Catherine en joignant les mains.
Ah, parbleu, dit Pitou, c'est bien ce que je fais aussi. La Sardaigne, ah, m'y voilà.
Catherine respira. La Sardaigne, reprit Pitou, la Sardinia des Romains, l'une des trois grandes îles de la Méditerranée au sud de la Corse, dont la sépare le détroit de Bonifacio, fait partie des États sardes qui en tirent leur nom et qu'on appelle Royaume de Sardaigne. Elle a 60 lieues du nord au sud, 16 de l'est à l'ouest. Elle est peuplée de 54 000 habitants, capitale Cagliari. Voilà ce que c'est que la Sardaigne, mademoiselle Catherine.
« Oh, mon Dieu !» dit la jeune fille, « que vous êtes heureux de savoir tant de choses, monsieur Pitou !»«
Le fait est, » dit Pitou, assez satisfait dans son amour-propre, s'il était blessé dans son amour, « le fait est que j'ai une bonne mémoire. »
« Et maintenant, » hasarda Catherine, mais avec moins de timidité, « maintenant que vous m'avez dit ce que c'était que la Sardaigne, savez-vous ce que c'est que Turin ?»
Turin, répéta Pitou, oh, certainement, mademoiselle Catherine, je ne demande pas mieux que de vous le dire.
Ah, si je me le rappelle, toutefois.
Oh, tâchez de vous le rappeler, c'est le plus important, monsieur Pitou.
Dame, si c'est le plus important, il faudra bien.
Oh, d'ailleurs, si je ne me rappelle pas, je ferai des recherches.
C'est, insista Catherine, c'est que j'aimerais mieux le savoir tout de suite.
Ah, cherchez, mon cher Pitou, cherchez.
Et Catherine prononça ces paroles d'une voix si caressante qu'elles firent courir un frisson par tout le corps de Pitou.
« Ah, je cherche, mademoiselle, dit-il, je cherche. »
Catherine le couvait des yeux. Et Pitou renversa sa tête en arrière comme pour interroger le plafond.
« Turin, dit-il, Turin.
Ah, dame mademoiselle, c'est plus difficile que la Sardaigne. La Sardaigne est une grande île de la Méditerranée. Il n'y a que trois grandes îles dans la Méditerranée. La Sardaigne qui appartient au roi de Piémont, la Corse qui appartient au roi de France et la Sicile qui appartient au roi de Naples, tandis que Turin, c'est une simple capitale.
Comment avez-vous dit pour la Sardaigne, mon cher Pitou ?
J'ai dit la Sardaigne qui appartient au roi de Piémont.
Je crois ne pas me tromper, mademoiselle.
Ah, c'est cela, justement, mon cher Pitou. Isidore dit dans sa lettre qu'il va à Turin en Piémont.
Ah, fit Pitou, je comprends maintenant. Bon, 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 c'est à Turin que monsieur Isidore a été envoyé par le roi, et c'est pour savoir où va monsieur Isidore que vous m'interrogez.
Et pourquoi serait-ce donc, répondit la jeune fille, si ce n'était pour lui, que m'importe à moi, la Sardaigne, le Piémont, Turin?
Ah, tant qu'il n'y a pas été, j'ai ignoré ce que c'était que cette île et cette capitale, je m'en inquiétais peu.
Mais il est parti pour Turin, comprends-tu, mon cher Pitou, et je veux savoir ce que c'est que Turin.
Pitou poussa un gros soupir, secoua la tête, mais il n'en fit pas moins tous ses efforts pour satisfaire Catherine.
Turin, dit-il, ah, attendez, capitale du Piémont, Turin, Turin, j'y suis,
Turin, Bodinque Magus, Torasia, Colonia, Julia, Augusta, Torinorum chez les anciens. Aujourd'hui, capitale du Piémont et des États sardes, située sur le Pô et la Doire, une des plus belles villes de l'Europe. Population 125 000 habitants, roi régnant Charles-Emmanuel. Ah, voilà ce que c'est que Turin, mademoiselle Catherine. Et à quelle distance Turin est-il de Picelleux, monsieur Pitou? Vous qui savez tout, vous devez savoir cela. Ah, dame, me fit Pitou, je vous dirai bien à quelle distance Turin est de Paris, mais de Picelleux, c'est plus difficile. Eh bien, dites d'abord de Paris, Pitou, et nous ajouterons 18 lieues qu'il y a de Picelleux à Paris. Ah, tiens, c'est ma foi vrai, dit Pitou. Et, continuant sa nomenclature, distance de Paris, dit-il, 206 lieues, de Rome 140, de Constantinople. Je n'ai besoin que de Paris, mon cher Pitou. 206 lieues et 18, 224. Ainsi, il est à 224 lieues de moi. Il y a 3 jours, il était là, à 3/4 lieues, à mes côtés, et aujourd'hui, ajouta Catherine, en fondant en larmes et en se tordant les bras, aujourd'hui, il est à 224 lieues de moi. Oh, pas encore, hasarda timidement Pitou, il n'est parti que d'avant-hier, il n'est encore qu'à moitié chemin, et à peine. Où est-il alors? Ah, quant à cela, je n'en sais rien, répondit Pitou. L'abbé Fortier nous apprenait ce que c'était que les royaumes et les capitales, mais il ne nous disait rien des chemins qui y conduisent. Alors voilà tout ce que tu sais, mon cher Pitou. Mon Dieu, oui, dit le géographe, humilié de toucher si vite aux limites de sa science, si ce n'est que Turin est un repaire d'aristocrates. Que veut dire cela? Cela veut dire, mademoiselle, que c'est à Turin que sont réunis tous les princes, toutes les princesses, tous les émigrés, monsieur le comte d'Artois, monsieur le prince de Condé, madame de Polignac, un tas de brigands, enfin, qui conspirent contre la nation et à qui on coupera la tête un jour, il faut l'espérer, avec une machine très ingénieuse qu'est en train d'inventer monsieur Guillotin. Oh, monsieur Pitou, quoi donc, mademoiselle? Mais voilà que vous redevenez féroce, comme à votre premier retour de Paris. Féroce, moi, dit Pitou. Ah, c'est vrai, oui. Ah, monsieur Isidore est un de ces aristocrates-là, et vous avez peur pour lui. Et puis, avec un de ces gros soupirs que nous avons déjà signalés plus d'une fois. N'en parlons plus, ajouta Pitou. Parlons de vous, mademoiselle Catherine, et de la façon dont je puis vous être agréable. Ah, mon cher Pitou, dit Catherine, la lettre que j'ai reçue ce matin n'est probablement pas la seule que je recevrai. Et vous désirez que j'aille chercher les autres lettres comme celle-ci. Pitou, puisque tu as commencé d'être si bon, autant vaut que je continue, n'est-ce pas? Oui. Ah, je ne demande pas mieux, moi. Mais tu comprends bien que, surveillé par mon père comme je le serai, je ne pourrai pas aller à la ville. Ah, mais c'est qu'il faut vous dire qu'il me surveille un peu aussi, moi, le père Biot. J'ai vu cela à son œil. Oui, mais vous, Pitou, il ne peut pas vous suivre à Aramon, et nous pouvons convenir d'un endroit où vous déposerez les lettres. Ah, très bien, répondit Pitou, comme par exemple le gros saule creux qui est près de l'endroit où je vous ai trouvé évanoui. Justement, dit Catherine, c'est à portée de la ferme et en même temps hors de vue des fenêtres. Ah, c'est donc convenu qu'on les mettra là? Oui, mademoiselle Catherine. Ah, seulement, vous aurez soin qu'on ne vous voit pas. Demandez aux gardes de la garderie de Lompré, de Taillefontaine et de Montaigu s'ils m'ont vu, et cependant, je leur en ai soufflé des douzaines de lapins. Mais vous, mademoiselle Catherine, comment ferez-vous pour les aller chercher, ces fameuses lettres? Moi, oh, moi, dit Catherine avec un sourire plein d'espérance et de bonté, moi, je vais tâcher de guérir bien vite. Et Pitou poussa le plus gros des soupirs qu'il eût encore poussé. En ce moment, la porte s'ouvrit et le docteur Rénal parut. Cette visite de M. Rénal venait à propos pour faciliter la sortie de Pitou. Le docteur s'approcha de la malade, non sans s'apercevoir du notable changement qui s'était opéré en elle depuis la veille. Catherine sourit au docteur et lui tendit le bras. Oh, dit le docteur, si ce n'était pour le plaisir de toucher votre jolie main, ma chère Catherine, je ne consulterais pas même votre pouls. Je parie que nous ne dépassons pas le 75 battements à la minute. Ah, c'est vrai que je vais beaucoup mieux, docteur, et que vos ordonnances ont fait merveille.
Mes ordonnances, fit le docteur, je ne demande pas mieux, vous comprenez, mon enfant, que d'avoir tous les honneurs de la convalescence, mais il faut bien, si vaniteux que je sois, que je laisse une part de cet honneur à mon élève Pitou. Puis, levant les yeux au ciel, « Oh, nature, nature, dit-il, puissante Cérès, mystérieuse Isis, que de secrets tu gardes encore à ceux qui sauront t'interroger ?» Et, se tournant vers la porte, « Allons, allons, dit-il, entrez, père au visage sombre, mère à l'œil inquiet, et venez voir la chère malade. Elle n'a pour guérir tout à fait plus besoin que de votre amour et de vos caresses. » À la voix du docteur, le père et la mère Billot accoururent. Le père Billot avec un reste de soupçon dans sa physionomie, la mère Billot avec une figure radieuse. Pendant qu'ils faisaient leur entrée, et Pitou, après avoir répondu au dernier coup d'œil que lui lançait Catherine, Pitou faisait sa sortie. Laissons Catherine, que la lettre d'Isidore appuyée sur son cœur dispense désormais d'applications de glace sur la tête et de moutarde aux pieds, laissons Catherine, disons-nous, revenir sous les caresses de ses dignes parents à l'espérance et à la vie, et suivons Pitou, qui venait simplement et naïvement d'accomplir une des actions les plus difficiles imposées par le christianisme aux âmes chrétiennes, l'abnégation de soi-même et le dévouement à son prochain. Dire que le brave garçon quittait Catherine avec un cœur joyeux, ce serait trop dire. Nous nous contenterons d'affirmer qu'il la quittait avec un cœur satisfait. Quoiqu'il ne se fût pas rendu compte à lui-même de la grandeur de l'action qu'il venait d'accomplir, il sentait bien, aux félicitations de cette voix intérieure que chacun porte en soi, qu'il avait fait une bonne et sainte chose, mais peut-être pas au point de vue de la morale, qui bien certainement réprouvait cette liaison de Catherine avec le vicomte de Charny, c'est-à-dire d'une paysanne avec un grand seigneur, mais au point de vue de l'humanité. Or, à l'époque dont nous parlons, l'humanité était un mot à la mode, et Pitou, qui plus d'une fois avait prononcé ce mot sans savoir ce qu'il voulait dire, Pitou venait de le mettre en pratique sans trop savoir ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait, c'était une chose qu'il eût dû faire par habileté s'il ne l'eût pas faite par bonté d'âme. De rival de M. de Charny, situation impossible à maintenir pour lui, et Pitou, de rival de M. de Charny, il était devenu le confident de Catherine. Aussi Catherine, au lieu de le rudoyer, au lieu de le brutaliser, au lieu de le mettre à la porte comme elle avait fait au retour de son premier voyage à Paris, Catherine, elle avait-elle choyé, tutoyé, caressé. Confident, il avait obtenu ce que, rival, il n'avait jamais rêvé. Sans compter ce qu'il obtiendrait encore au fur et à mesure que les événements rendraient sa participation de plus en plus nécessaire à la vie intime et aux sentiments secrets de la belle paysanne. Afin de se ménager cet avenir d'amicale tendresse, Pitou commença par porter à Mademoiselle Colombe une autorisation presque illisible donnée à lui, Pitou, par Catherine, de recevoir, pour elle et en son nom, toutes les lettres qui arriveraient pour elle et à son nom. À cette autorisation écrite, Pitou joignait une promesse verbale de Catherine qui s'engageait à la Saint-Martin prochaine de donner au journalier de Pisseleu une collation tout en pain d'épices et en sucre d'orge. Moyennant cette autorisation et cette promesse qui mettait à la fois à couvert la conscience et les intérêts de la mère Colombe, celle-ci s'engagea à prendre tous les matins à la poste et à tenir à disposition de Pitou les lettres qui pourraient arriver pour Catherine. Ce point réglé, n'ayant plus rien à faire à la ville, comme on appelait pompeusement Villers-Cotterêts, Pitou s'achemina vers le village. La rentrée de Pitou à Aramon fut un événement. Son départ précipité pour la capitale n'avait point été sans soulever un grand nombre de commentaires, et après ce qui était arrivé à propos de l'ordre envoyé de Paris par un aide-de-camp de Lafayette de s'emparer des fusils en dépôt chez l'abbé Fortier, les Aramontois n'avaient plus fait de doute sur l'importance politique de Pitou.
Les uns disaient qu'il avait été appelé à Paris par le docteur Gilbert, les autres par le général Lafayette, les autres enfin, il est vrai de dire que c'était le plus petit nombre, les autres enfin par le roi. Quoique Pitou ignorât les bruits qui s'étaient répandus en son absence, bruits tout en faveur de son importance personnelle, il ne rentrait pas moins dans son pays natal avec un air si digne que chacun fut émerveillé de cette dignité. C'est que, pour être vus à leur véritable distance, les hommes doivent être vus sur le terrain qui leur est propre. Écolier dans la cour de l'abbé Fortier, journalier à la ferme de M. Billot, Pitou était homme, citoyen, capitaine à Aramon. Sans compter qu'en cette qualité de capitaine, outre 5 ou 6 louis lui appartenant en propre, il rapportait, on se le rappelle, 25 louis offerts généreusement par le docteur Gilbert en vue de l'équipement et de l'habillement de la garde nationale d'Aramon. Aussi, à peine rentré chez lui, et comme le tambour venait lui faire sa visite, Pitou ordonna-t-il à celui-ci d'annoncer pour le lendemain dimanche à midi une revue officielle avec armes et bagages sur la grande place d'Aramon. Dès lors, on ne douta plus que Pitou n'eût une communication à faire à la garde nationale d'Aramon de la part du gouvernement. Beaucoup vinrent causer avec Pitou pour tâcher d'apprendre, avant les autres, quelque chose de ce grand secret, mais Pitou garda, à l'endroit des affaires publiques, un majestueux silence. Le soir, Pitou, que les affaires publiques ne distrayaient pas plus de ses affaires privées que les affaires privées ne le distrayaient des affaires publiques, le soir, Pitou alla tendre ses collets et présenter ses compliments au père Clouis, ce qui ne l'empêcha point d'être à 7 heures du matin chez maître Dulauroy, tailleur, après avoir déposé dans son domicile d'Aramon 3 lapins et 1 lièvre, et s'être informé à la mère Colombe s'il y avait des lettres pour Catherine. Il n'y en avait pas, et Pitou en fut presque affligé en songeant au chagrin que ressentirait la pauvre convalescente. La visite de Pitou à M. Dulauroy avait pour but de savoir si celui-ci consentirait l'habillement à forfait de la garde nationale d'Aramon et quel prix il demandait pour cela. Maître Dulauroy fit sur la taille des individus les questions usitées en pareille circonstance, questions auxquelles Pitou répondit en lui mettant sous les yeux l'état nominatif des 33 hommes officiers, sous-officiers et soldats composant l'effectif de la garde civile aramontoise. Comme tous les hommes étaient connus de maître Dulauroy, on supputa grosseur et taille, et plume et crayon à la main, le tailleur déclara qu'il ne pouvait pas fournir 33 habits et 33 culottes convenablement conditionnées à moins de 33 louis. Et encore, Pitou, ne devait-il pas exiger pour ce prix du drap entièrement neuf? Pitou se récria et répondit qu'il tenait de la bouche même de Monsieur de Lafayette qu'il avait fait habiller les 3 millions d'hommes qui composaient la garde civique de France à raison de 25 livres l'homme, ce qui faisait 75 millions pour le tout. Maître Dulauroy répondit que, sur un chiffre pareil, perdit-on dans le détail, il y avait moyen de se retirer pour le tout. Mais que lui, ce qu'il pouvait faire, et son dernier mot était dit, c'était d'habiller la garde civique d'Aramon à 22 francs l'homme, et encore, vu les avances nécessaires, ne pouvait-il entreprendre l'affaire qu'au comptant. Pitou tira une poignée d'or de sa poche et déclara que là ne serait point l'empêchement, mais qu'il était limité dans son prix et que, si maître Dulauroy refusait de confectionner les 33 habits et les 33 culottes pour 25 louis, il allait en faire l'offre à maître Bligny, confrère et rival de maître Dulauroy, auquel il avait donné la préférence en sa qualité d'ami de la tante Angélique. Et Pitou, en effet, n'était point fâché que la tante Angélique apprît par voie détournée et que lui, Pitou, remuait l'or à la pelle, et il ne doutait pas que le même soir, le tailleur ne lui rapportât ce qu'il avait vu, c'est-à-dire que Pitou était riche comme feu Crésus. La menace de porter ailleurs une commande de cette importance fit son effet, et Maître Duleroy en passa par où voulut Pitou, lequel exigea en outre que son costume, en drap neuf, peu lui importait que ce fût en drap fin, il l'aimait même mieux gros que fin, lui fut fourni, épaulette comprise, par-dessus le marché. Ce fut l'objet d'un nouveau débat, non moins long et non moins ardent que le premier, mais sur lequel Pitou triompha encore, grâce à cette terrible menace d'obtenir de Maître Bligny ce qu'il ne pouvait obtenir de Maître Duleroy. Le résultat de toute la discussion fut l'engagement pris par Maître Duleroy de fournir, pour le samedi suivant, 31 habits et 31 culottes de soldats, 2 habits et 2 culottes de sergent et de lieutenant, et 1 habit et 1 culotte de capitaine, l'habit orné de ses épaulettes. Faute d'exactitude dans la livraison, la commande restait pour le compte du tailleur retardataire, la cérémonie de la fédération de Villers-Cotterêts et des villages qui relevaient de ce chef-lieu de canton devant avoir lieu le dimanche, lendemain de ce samedi. Cette condition fut acceptée comme les autres. À 9 heures du matin, cette grande affaire était terminée. À 9h30, Pitou était rentré à Aramon, tout orgueilleux d'avance de la surprise qu'il ménageait à ses concitoyens. À 11 heures, le tambour battait le rappel. À midi, la garde nationale sous les armes manœuvrait avec sa précision ordinaire sur la place publique du village. Après 1 heure de manœuvre qui valurent à cette brave garde nationale les éloges de son chef et les bravos des femmes, des enfants et des vieillards qui regardaient ce touchant spectacle avec le plus grand intérêt, Pitou appela près de lui le sergent Claude Tellier et le lieutenant Désiré Maniquet et leur ordonna de réunir leurs hommes et de les inviter de sa part à lui, Pitou, de la part du docteur Gilbert et de la part du général Lafayette, et enfin de la part du roi, à passer chez Maître Duleroy, tailleur à Villers-Cotterêts, qui avait une communication importante à leur faire. Le tambour battit à l'ordre, le sergent et le lieutenant, aussi ignorants que ceux auxquels ils s'adressaient, transmirent à leurs hommes les paroles textuelles de leur capitaine, puis le cri « Rompez les rangs !» se fit entendre, prononcé par la voix sonore de Pitou. 5 minutes après, les 31 soldats de la garde civique d'Aramon, plus le sergent Claude Tellier et le lieutenant Désiré Maniquet, couraient comme des dératés sur la route de Villers-Cotterêts. Le soir, les 2 ménétriers d'Aramon donnaient une sérénade au capitaine, l'air était sillonné de pétards, de fusées et de chandelles romaines, et quelques voix, légèrement avinées, il est vrai, criaient par intervalles « Vive Ange Pitou, le père du peuple !»